Radio-Canada, audio.
Toi, tu as été témoin de, premièrement, mes questionnements depuis super longtemps. Tu as été témoin aussi de ma quête diagnostique. Jusqu'au moment où j'ai reçu mon diagnostic, tu es une des premières personnes à qui je l'ai dit. J'aimerais ça savoir, comme, est-ce que tu vois une différence depuis?
Je pense que, sur le coup, quand on reçoit un diagnostic, ben là, corrige-moi si je me trompe, mais il y a comme une période de choc. Puis, je pense que c'est même toi qui me l'as dit, une période même où tu sens que tu régresses.
Ouais.
Parce que le travail le plus important en ce moment, c'est d'enlever les couches.
De redevenir attentive à...
Ouais. Puis ça, ça fait en sorte que peut-être pour les autres personnes, ils te reconnaissent plus. Là. Il y a comme une période de choc un peu pour les autres aussi, de faire comme, OK, à ta peu, c'est qui la personne que j'ai eu l'impression de connaître vraiment bien, mais là, tout d'un coup, il y a plein d'affaires qui s'en vont, il y a plein d'affaires qui apparaissent. Fait que je pense que probablement que ce balado-là, pour toi, c'est une façon de comme reconstruire un peu.
100%.
De remettre des pierres sur le petit monument qui restait une fois que tu avais comme enlevé les pluches, les couches.
Ma sœur Mélanie, elle comprend vraiment bien tout le processus par lequel je suis passée. Puis ça, ça me touche vraiment.
Mais moi, je serais curieuse de savoir, toi, de ton point de vue à toi, qu'est-ce que tu sens qui a changé depuis ton diagnostic?
Depuis mon diagnostic, je me désorganise vraiment moins. Parce que justement, je sens plus les signaux qui vont m'amener à être surchargée. Donc, je vais être capable, mettons, d'écrire à quelqu'un, de pas mentir. Tu sais, comme avant, j'inventais des affaires quasiment pour pas aller à des événements. Là, maintenant, je vais dire, ah, désolée, je me sens pas à l'aise dans tel type d'événement. Ou, on était supposé se voir ce soir, je me sens en surcharge, je pourrais pas. Puis les gens, je leur donne l'opportunité de me connaître plus, en fait. Puis je pense même que ça les rend plus à l'aise de me dire comment ils se sentent vraiment. Donc, je sens que mes relations sont plus authentiques. Tout est plus vrai, en fait. Puis, je suis vraiment consciente de mon masque. Donc, je le mets en étant consciente. Puis, je le subis moins. Mm-hmm. Exact.
De plus en plus, les experts qui étudient les mécanismes compensatoires des femmes neurodivergentes parlent du camouflage ou de l'effet caméléon. Moi, je l'appelle le masque. C'est comme si j'avais étouffé ma vraie nature ou certaines facettes de ma vraie nature pendant presque toute ma vie jusqu'à mon diagnostic. Mais si j'avais pu nommer mon impression de décalage plus jeune, est-ce que j'aurais pu m'assumer un peu plus? Est-ce que j'aurais pu choisir de ne pas le porter, le masque, ou de le porter moins souvent? Vous écoutez « Apparaître ». La neurodivergence invisible. Épisode 2. Sous le masque. En commençant ma quête, j'ai remis la main sur des traces du passé. Mes bulletins, mes travaux d'école, mes photos, mes dessins. Dans mon bulletin de maternelle, ma prof écrit « Stéphanie aime bien organiser et même mener le jeu de ses amis. À l'occasion, elle déploie beaucoup d'énergie. » Dans les aspects à développer, elle note « contrôler l'intensité de sa voix dans le groupe » et « écouter quand les autres parlent ». En dessous des commentaires de la prof, mon père répond « nous avons bien expliqué à Stéphanie les différents points qu'elle devra améliorer à l'école ». Dès la maternelle, on nous demande de contrôler ou de modifier certains des traits qui font partie, entre autres, de ceux qui peuvent aider à repérer les enfants neurodivergents. Donc, à 5 ans, je devais déjà masquer, intérioriser, camoufler. Je le sais, c'est pareil pour beaucoup d'entre nous, même si on n'est pas neurodivergent d'ailleurs, mais c'est particulièrement vrai quand on l'est. Pour remédier à l'isolement ou au jugement des autres, les personnes neuroatypiques, surtout les filles ou les personnes de la diversité de genre, apprennent à cacher leurs traits, à supprimer les comportements extériorisés qui peuvent sembler dérangeants ou décalés. Ça peut être de contenir le stimming ou encore d'appliquer des comportements qui ne sont pas naturels, mais qui le sont pour les neurotypiques. Un bon exemple de ces comportements, c'est le contact visuel. Andréane nous en parle.
Il y avait quelqu'un au cégep qui m'a dit « Mais non, t'es pas ici, tu me regardes dans les yeux. » C'est tellement arriéré comme commentaire. Oui, je regarde dans les yeux, mais pas tant que ça. Puis c'est drôle parce que oui, je suis capable de faire un contact visuel avec les gens, mais je regarde pas vraiment dans leurs yeux. Je regarde les cheveux, je regarde le tour, mais je maintiens pas un contact visuel. J'haïs ça. C'est pas agréable.
De façon stéréotypée, l'autisme est souvent associé à peu ou pas de contact visuel. Donc, la personne ne va pas initier ou maintenir le contact. Alors que plusieurs filles et femmes ont appris.
Je le fais depuis que je suis arrivée avec vous. Ouais. Ça me prend de l'énergie.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment impressionnant à quel point Dr. Hainaut comprend bien les subtilités de l'autisme au féminin.
J'ai appris, puis je me rappelle exactement le moment où j'ai appris à avoir un contact visuel. J'avais entendu des gens dire « c'est vraiment tannant les gens qui regardent pas dans les yeux ».
Oui.
J'ai enregistré ça, puis je me suis dit « merde, je le fais ».
Oui.
Puis je me rappelle d'être avec mon prof de philosophie au cégep, dans le corridor, puis de me dire « c'est là, c'est le moment où je vais apprendre à regarder ». Puis me forcer, puis c'est comme toute mon énergie est dans mes yeux pour le maintenir. Mais là, maintenant, c'est rendu, je peux pas ne pas le faire, je le fais, mais ça me demande quand même beaucoup d'énergie.
C'est ça. C'est ça quand on parlait de subtilité, parce que si moi, je vous regarde, puis depuis le début de notre discussion, vous me regardez dans les yeux, puis je me dis, bon, ben, regarde dans les yeux, elle a une carrière, elle a une vie sociale, elle peut pas être autiste. Puis là, c'est justement, c'est tout l'apprentissage. Là, vous évoquez, j'ai appris, je me force. Donc, il y a un coût d'énergie énorme. Il y a des gens aussi qui apprennent à regarder à la base du nez entre les yeux.
Ou à scanner bouche.
C'est ça, exactement. Ces subtilités sociales qui sont dans le, encore une fois, camouflage, le coût d'énergie qui est très, très grand, qui est déployé. Donc, on parle d'habiletés sociales, mais qui ne sont pas aussi spontanées et naturelles, qui ont été développées par apprentissage, par imitation. C'est que si on est neurotypique, ça ne veut pas dire qu'on décode à 100 % l'autre, mais on a spontanément développé, depuis la petite enfance, quand on regarde les gens dans les yeux, on apprend à décoder leurs émotions. Le non-verbal, en général, indique près de 80 % du message. Fait que si moi, je suis neurotypique, je vous regarde, et là, je vois que vous hochez la tête, vous me faites un petit sourire, je me dis, bon, elle est intéressée, on est vraiment concentré, ça se passe bien. Si je suis autiste et j'ai de la difficulté à regarder dans les yeux parce qu'il y a trop d'informations, c'est intrusif, je peux pas réfléchir, parler, regarder en même temps, je vais manquer une grande partie du message qui est envoyé.
Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui est injectée ailleurs.
Oui.
C'est ça.
Exactement. Donc, tout ça fait que le contact visuel, est pour vous, techniquement, serait secondaire. Parce que vous n'avez pas besoin de me regarder pour être en contact avec moi. Mais les neurotypiques, oui.
Donc voilà, c'est dit. J'aime pas ça regarder dans les yeux. Je l'ai tellement intériorisé que maintenant, ça me crée un plus grand malaise encore d'éviter le regard plutôt que de le soutenir. Mais ça reste quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, puis qui m'épuise à la longue. C'est pareil pour les conversations banales ou le small talk. Je trouve ça superficiel, pas naturel, puis énergivore. Isabelle ressent la même chose que moi.
Il y a des affaires que je comprends pas. Je le fais, parce que je le sais, socialement, il faut le faire. Mais tu sais, pourquoi le monde se font un devoir de demander comment ça va quand ils n'en ont rien à cirer de ta réponse, qu'ils l'écoutent à peine? Tu sais, je comprends, c'est une façon d'entrer en relation avec les autres, une façon de montrer un intérêt. Comment ça va? Ça va bien. Hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Je comprends pas. On a-tu vraiment besoin de perdre notre temps avec toute cette discussion?
C'est comme s'il faut que les choses soient efficaces, servent à quelque chose, puis soient vraies, si je comprends bien ce que tu es en train de dire.
Oui.
C'est ça, je comprends exactement ce que tu veux dire. C'est une allergie aux faux-semblants, en fait.
Ah, vraiment!
Les normes et les conventions sociales, c'est pas naturel pour beaucoup de femmes neurodivergentes. Mais on comprend assez vite qu'il faut s'adapter.
Le masking, c'est présent. Je pense que c'est presque inné là, chez les femmes. La façon dont on nous demande de se conduire dans la société, puis c'est toutes les petites filles, pas juste les petites filles neurodivergentes, on demande aux femmes de masquer, j'ai l'impression, là, au-delà de ça, parce qu'une petite fille doit se tenir plus qu'un petit gars, et on a comme des attentes différentes, puis c'est un paradigme qui est super ancré dans notre société, puis ben ça, je pense que ça fait juste se traduire, en fait, sur la neurodivergence. On l'observe comme on l'observe dans les autres sphères de la vie.
Ce que Blanche vient de dire, c'est important. La neuropsychologue Éliane Chevrier nous l'a déjà expliqué. Il y a des composantes biologiques et héréditaires à la neurodivergence et à comment ça va se manifester chez un individu. Mais le contexte social et l'éducation reliée au genre, ça peut aussi avoir un impact, selon elle.
Chez la fille, il y a aussi un impact du rôle, je vous dirais, social et de l'éducation. Chez l'enfant tout petit, beaucoup d'études vont dire l'adulte, sachant qu'il s'adresse à un enfant de 1 an, garçon ou fille, n'agit pas de la même façon. Alors, ça peut être très inconscient, là, c'est pas du tout volontaire des fois ou inculqué, mais le rôle de l'empathie, le vocabulaire utilisé avec les enfants filles, n'est pas le même. Et parfois, on va dire le vocabulaire des émotions, le vocabulaire social est peut-être plus développé ou la petite fille est plus exposée à ça que le petit garçon, qui serait peut-être tout autant capable, là. Alors, est-ce que plus tard, certaines femmes, du moins, évidemment pas toutes, mais ont plus de langage et de mots pour expliquer certains concepts émotionnels ou sociaux. Alors, est-ce qu'aussi on les voit moins parce qu'on dit « Ah, ben la compréhension sociale est bonne. » Oui, le vocabulaire est là. Est-ce que la compréhension sociale en dessous, elle est là par contre? Alors, ça m'amène un peu à parler de camouflage ou de mimétisme. On enseigne à ces enfants-filles-là certains comportements plus prosociaux, plus relationnels, qui font qu'on voit moins. Alors, il est possible que si la fille, elle est sur le spectre de l'autisme, elle a, admettons, un trouble déficitaire de l'attention, malgré tout, elle a des comportements socialement qui paraissent moins dérangeants, donc on le voit moins, on le dépiste moins.
Le profil d'Andréanne colle bien à la description que Dr Chevrier vient de faire. Je lui ai demandé pourquoi, selon elle, on ne l'avait pas repéré plus tôt.
Ça semble évident parce qu'on a nos connaissances et le recul. Mais tu sais, je fonctionnais à l'école. Je n'étais pas quelqu'un qui n'avait pas d'amis. Puis même quand il y avait, mettons, de l'intimidation ou du rejet, mais c'était des inhabiletés sociales qui passaient sur le fait d'une immaturité, mais qui était clairement une incapacité. Il y avait vraiment quelque chose dans le code social que plus qu'on grandissait, moins je comprenais. Puis j'embarquais dans le jeu de tout le monde. Je suis extrêmement naïve dans la vie. Fait que souvent, ça jouait contre moi. Mais je pense vraiment parce que les gens associaient ça à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui ont été passées sur le fait que j'avais de l'anxiété. Puis sur le fait aussi que j'ai une capacité à masquer, mais c'est au point où je suis 100% moi-même. Quand c'est des gens que je connais, que je sais que je peux être moi-même, puis que si je me mets à parler non-stop, il y a personne qui va être mal à l'aise par le fait que je suis verbomoteur puis que je parle.
Parce qu'ils t'aiment, puis tu te sens en sécurité à quelque part.
Mais c'est ça. Mm-hmm. Mais tu me mets dans un contexte avec des gens que je connais pas. Surprenamment, je parle pas tant que ça. Puis là, c'est beaucoup de camouflage, puis de masking, puis beaucoup d'interaction sociale par des scénarios préappris. Tu sais, je vais y aller par des automatiques de « Ah, oh, t'as un beau chandail aujourd'hui! Comment était votre avant-midi? » Tu sais, des affaires que tu sais que c'est bien reçu par l'autre parce que tu sais pas où prendre la conversation.
Dans le profil féminin, ça, c'est une des grandes différences, c'est ce besoin de socialiser, le goût d'aller vers les autres sans nécessairement avoir tout le temps les compétences ou les aptitudes sociales.
Mais l'envie est là.
Exactement. Mm-hmm.
Dr Hainaut nous explique que le camouflage peut être particulièrement élaboré chez les filles et les femmes autistes de niveau 1.
Donc, il y a beaucoup d'imitations, d'observations des comportements sociaux. Les filles et les femmes sont curieuses. Elles veulent comprendre, elles veulent décoder. Ça, c'est une grosse partie du profil féminin qui, pour moi, fait quand même une distinction avec le profil classique ou masculin. C'est-à-dire que, je donne des exemples. Adolescentes, elles vont beaucoup, beaucoup soit lire, regarder des émissions, des sitcoms, des séries, non pas pour se divertir, mais pour apprendre, pour comprendre. On est dans l'assimilation, les scripts, la reproduction, comment les personnages interagissent, comment ça se passe avoir un amoureux, une amoureuse. C'est ça qu'elles observent. C'est divertissant, mais l'objectif n'est pas le même. Et une fois qu'elles observent, elles ont tendance à reproduire par imitation. Et c'est tout l'aspect du camouflage.
J'étais une enfant qui observait beaucoup puis qui avait besoin de temps avant pour de assimiler. Se lancer. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça, c'est très...
typique.
C'est très typique. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours préféré arriver dans les premières pour voir le monde arriver. Puis à l'école, ben j'étais toujours plus en retrait. J'observais, tu sais, même ado, mais je disais, ah, c'est pour saisir le monde, pour savoir avec qui, tu sais, je vais m'affilier. Oui, mais c'est aussi, je pense, pour se donner le temps de s'adapter, de comprendre comment on va agir aussi. Parce que il y a tellement d'affaires que je comprenais pas. Tu sais, au niveau des relations, je sais même pas comment séduire quelqu'un. Je comprends même pas quand quelqu'un me séduit. Tu sais, toutes les sitcoms, là, Friends et compagnie, je les écoutais, puis moi, c'était comme ma bible, là, de savoir, OK, ça fonctionne comme ça, le monde. Tu sais, avec le recul, à l'époque, non, c'était très inconscient.
Ouais. Mais aussi parce qu'on pense que tout le monde fait ça, je pense.
Oui. Mmh. Tu sais, là, maintenant, j'ai beaucoup là, de scripts, fait que ça va mieux. Mais j'étais beaucoup dans l'imitation. Tu sais, j'écoute beaucoup pour essayer que, quand mon tour viendra, que je vais pouvoir me former une question, une réponse, un commentaire qui va être à propos.
Ben c'est ouais. Ça!
Mais je le sais que ça fait partie de la game. Je le sais que c'est un passage obligé, parce que si tu fais pas ça, t'es pas en relation avec les autres, fait que là, tu t'isoles, puis là, ça, t'sais, ça parle contre toi parce que t'es tout le temps tout seul, puis bon, ainsi de suite. C'est une pièce de théâtre. Fait que je pense qu'il faut que je comprenne c'est quoi mon rôle.
Docteur Chevrier nous explique que les femmes neurodivergentes qui ont un HPI sont elles aussi particulièrement efficaces dans le camouflage, en raison de leur grande capacité d'apprentissage.
Effectivement, que si, on dit un peu, si on a des ressources pour compenser, pour pallier, pour masquer, ça paraît moins. Donc, on peut être identifié ou diagnostiqué plus tard. Si on a une personne à haut potentiel ou dans la douance, qui a des aptitudes cognitives bien développées, une rapidité d'apprentissage ou une facilité, ça peut amener cette personne-là à intégrer plus facilement qu'une autre personne. Bon, les rétroactions, les feedbacks, les enseignements. Non, fais pas ça. Bien, pas comme si. Regarde, c'est comme ça. Bien, la personne pourrait mieux répondre à l'enseignement des habiletés sociales, enfants, ados, adultes, et bien, ça paraît plus ou ça paraît moins. Donc, ça permet à la personne de se camoufler un peu plus, de masquer des difficultés. Alors, ces personnes-là peuvent naviguer. Ça ne veut pas dire que ça se fait sans souffrance, là, personnelle ou individuelle, là, vraiment pas. Mais pour l'extérieur, ben ça va, à des bonnes notes, ben à quand même des amis, ben ça va, là, c'est normal. Là, c'est quoi le problème, tu sais?
Qu'est-ce qui fait, puis tu n'es pas vieille, là, mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu n'as pas été repérée avant?
Je pense que mes difficultés et défis sont très, très peu visibles aux autres. Étant donné, en plus, je crois, avec la douance qui masque déjà mon TDAH, puis la douance qui, à la base, n'est pas toujours super reconnue parce que c'est vu comme un atout, déjà par le nom, tu sais, d'appeler ça de la douance. Mais étant donné que ma douance devait quand même masquer mon TDAH et que j'étais vue comme un enfant vif là, qui réussit super bien, qui s'exprime bien aussi, là, parce que c'est quand même quelque chose qu'on utilise beaucoup pour reconnaître... si quelqu'un se débrouille socialement ou pas, je pense.
Habituellement, le haut potentiel est associé à beaucoup plus de force et de compétences et de variables positives que négatives. Il est vrai, par exemple, que si c'est conjugué avec un trouble associé, là, ça peut amener une couleur plus compliquée parce que ça peut atténuer des symptômes d'un trouble. Donc, on ne le voit pas, on passe inaperçu. Passer inaperçu, bien, ça peut amener secondairement d'autres problématiques intériorisées ou de l'anxiété ou un sentiment de ne pas se reconnaître. Alors, en soi, juste le haut potentiel, c'est vraiment pas une problématique. Jumelé à un trouble, ça complique les choses. Et oui, en soi, ça peut amener une certaine forme de souffrance, là.
Dans des conditions optimales, ou si on est très habitué à masquer, on peut arriver à rester alerte et à se contrôler. Mais quand on est fatigué ou surchargé, on peut oublier ou juste manquer d'énergie pour garder un filtre, comme en témoignent Véronique et Andréane.
Je me rappelle, de revenir d'une soirée puis de dire « Ah, pourquoi j'ai trop parlé? Pourquoi j'en ai trop dit? Pourquoi j'ai trop partagé? »
Moi, des fois, c'est dangereux d'être plus à l'aise parce que là, j'arrête de camoufler avec un aspect professionnel. Puis là, je me mets à parler. Puis à un moment donné, j'overshare parce que mon verbomoteur prend le relais. Puis là, je sors des fois après dîner. Puis je suis comme, oh non.
Pourquoi j'ai dit ça?
Tu sais, dans le sens où c'est pas tes amis, c'est des collègues, mais les filtres, à un moment donné, prennent le bord. Parce que justement, c'est très dur de les mettre en place. Puis à un moment donné, tu viens trop à l'aise. Puis là, c'est comme, ah, ben, je décamoufle un petit peu. Mm-hmm. Mais c'est pas toujours l'espace pour... Un bon exemple de ça, c'est une fois au cégep, pour plein de circonstances, j'ai dormi 3 heures la nuit. Puis je suis quand même allée à mon cours le matin. J'avais pas bu de café, mais j'étais tellement en manque de sommeil que là, j'avais plus de masse, plus de fit, des tics dans le tapis, des stims, puis tout. Et c'était comme... Mon prof pensait que j'avais bu 12 cafés, mais c'était juste... J'ai pas assez de sommeil pour me masquer puis m'auto-gérer.
S'adapter pour être accepté, je vous l'ai déjà dit, c'est quelque chose que j'ai souvent vécu. Ce qui est fou, c'est que j'ai toujours été somme toute assez populaire à l'école. Mon masque était performant, puis j'avais certains privilèges qui faisaient en sorte que je passais bien quand même. Mais je restais avec l'impression que même mes amis me connaissaient pas vraiment. Il y a plein de choses dont je leur parlais pas, parce que je me disais que c'était pas intéressant, que c'était étrange ou trop lourd. À cause de ça, j'ai erré de gang en gang toute ma vie. D'un côté, j'étais allergique aux faux-semblants, puis j'avais besoin d'une grande dose d'authenticité dans ma vie, peut-être même plus que la moyenne, mais de l'autre côté, j'étais incapable d'être moi-même devant les autres. C'est un trait que je partage avec Véronique.
Je me sentais jamais bien nulle part. Fait que moi, à 16 ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande. T'sais, pour vous dire comment j'étais impulsive, j'avais décidé que je partais un an en Nouvelle-Zélande. Moi, j'ai dit, je m'en vais au bout du monde pour tout apprendre ça. L'anglais. Tu sais, bang, comme wow. Ça. Tu sais, c'est comme, OK, à la quête de... Ils vont me prendre, puis ils connaîtront pas qui je suis d'avant. Tu sais, c'était vraiment
c'est
ça.
C'est la même chose pour moi. Moi, je peux partir en Nouvelle-Zélande. Je suis partie à Drummondville. Un peu moins exotique. Mais avec le même désir, mais moi, c'était, je pense que c'était vraiment inconscient à cette époque-là, mais j'étais comme, je vais partir, puis je vais essayer... que la prochaine personne que je vais rencontrer, qui me connaît pas, là, je vais essayer d'être moi-même avec elle. Oui. Mais j'ai échoué pareil, parce que j'assumais pas j'étais qui.
Moi, je suis partie là-bas, mais malheureusement, mon TDAH me suivit aussi. Fait que là-bas, j'ai eu les mêmes problèmes. T'sais, avec mes amis, là, je pensais moi me sauver en allant là-bas. Là, t'sais.
Quand j'étais jeune, j'avais comme un vocabulaire un peu plus élaboré parce que j'étais super curieuse. Mon refuge, c'était la poésie, c'était les livres, c'était les chansons. J'écoutais des affaires que personne n'écoutait. Donc, j'avais comme des mots dans mon vocabulaire que mes amis n'avaient pas. Puis la seule fois où je me le suis fait dire, « Tu parles pas comme nous, tu parles bizarre », j'ai fait comme « Ah, j'arrête ça tout de suite ». Fait que là, j'ai commencé à parler comme tout le monde. Puis là, j'ai commencé à avoir un accent gaspésien, mais... gros accent gaspésien, là, mais trop, là. Là, c'était rendu... Tu sais, je pense que je voulais tellement plaire que j'adoptais... Je me faisais dire, ah, ça, c'est-tu correct? Non, c'est pas correct. OK, parfait, je vais faire l'autre extrême.
Oui, le caméléon. Ça prend des gens qui t'aiment comme ça, mm-hmm. qui sont capables de t'accepter parce que le jugement va venir rapidement puis la culpabilité. Fait que tu vas masquer en inventant des raisons X, Y, Z. Tu vas te mentir aux autres. Pas pour mentir pour te valoriser, mentir pour pas montrer ton côté vulnérable.
C'est paradoxal quand même de masquer. Puis c'est tellement contre-intuitif parce que les femmes neurodivergentes sont souvent aussi des personnes intenses, singulières, passionnées, authentiques. Ce décalage-là, il fait mal aussi, puis il fatigue encore plus.
Je trouve ça extrêmement difficile de pas dire qu'est-ce que je pense pour de vrai. Et je ne comprends pas dans la société pourquoi est-ce qu'on est supposé de dire des choses ou de ne pas dire des choses qu'on pense. Et je le comprends, je le fais, j'essaie de le faire au même titre que les autres le font, dans le sens où je peux comprendre, OK, ça, on dit pas ça, ou on attend de le dire, tu sais, selon à quel point que t'es proche avec quelqu'un, par exemple. Mais ça me vient vraiment pas naturellement de gauger un peu...
De trier l'information.
À quel moment il faut être honnête et à quel moment il faut faire semblant, faire paraître que je me sens comme ça, alors qu'en réalité, je me sens pas comme ça. Et je comprends vraiment pas d'où ça provient, ni pourquoi est-ce qu'on fait ça. Puis on dirait que je le refuse un peu. C'est comme s'il fallait toujours contenir un petit peu là, ces sentiments pour pas avoir l'air démesuré. Ou faut que je contrôle vraiment ce qui sort à petite dose. Puis il y a des parties de moi que je peux pas montrer parce que c'est trop personnel, c'est trop intime ou ça fait vraiment peur. Puis il y a tout le temps des choses qu'il va falloir que tu gardes pour toi. Et ça, c'est du masking dans le sens où je sais ce qu'il faut faire puis ce qu'il faut pas faire, mais je trouve ça difficile.
Ça me touche. Je comprends exactement ce que tu veux dire.
Ça semble tellement démesuré que ça peut avoir l'air à la limite du faux.
D'être trop.
Tu veux pas avoir l'air désespéré. Jamais. Faut tout le temps que tu gardes là, ta dignité.
Une façade.
Oui, il y a vraiment au moins... Même si je suis quelqu'un de super transparent puis j'embrasse ça, il y a une partie de soi qu'il faut absolument protéger parce que sinon, ça devient dangereux. Là. Donc, pour moi, c'est là qu'il y a un énorme jeu social de qu'est-ce que je laisse paraître. Je trouve ça extrêmement lourd de ne pas pouvoir juste transmettre mes émotions sans avoir l'air d'une folle.
Ça m'émeut vraiment beaucoup, ce que Blanche m'a confié. Moi, à part la musique puis la littérature, c'est surtout à travers les réseaux sociaux que j'ai le mieux réussi à exprimer mon côté vulnérable. Ça m'a attiré beaucoup de critiques, puis je me suis souvent mise dans le trouble à cause de ça, mais ça m'a aussi permis de connecter différemment avec des gens qui partagent un vécu similaire au mien. Je le fais beaucoup pour moi, bien sûr, mais j'ai aussi une petite voix intérieure qui me dit que, tant qu'avoir une tribune, j'aimerais ça l'utiliser pour essayer de faire tomber des barrières.
Il y a une authenticité, malgré le camouflage. Puis moi, je travaille beaucoup sur l'estime, la confiance en soi, puis l'authenticité. Parce que ça, là, quand on reconnecte avec qui on est de l'intérieur, on se trompe pas. On peut pas se tromper. Puis les jeunes filles, c'est ça que je vois. Dès jeune âge, une pureté.
Tout le monde doit s'adapter. Les personnes neurotypiques aussi. Le masque, le camouflage, tout le monde y a recours. On n'a pas trop le choix parce que la société nous l'exige souvent. C'est juste que chez les personnes neurodivergentes, c'est plus difficile à doser puis ça nous pèse davantage. J'en ai parlé avec ma sœur.
À la limite, c'est peut-être la survie aussi, là, ce masque-là. Puis je pense même qu'en dehors même de la sphère publique, des fois, le masque est important, c'est juste qu'il brûle plus.
Je pensais à ça ce matin, puis je me disais, impossible que je sois rendue où je suis rendue dans ma vie, mais aussi dans ma carrière.
Si t'avais pas eu ce masque-là.
Je le trouve performant, puis je l'aime, puis je suis reconnaissante d'avoir réussi. C'est quand même une force de réussir à construire cette identité-là, parce que sinon, il y a plein d'opportunités auxquelles on n'aurait pas accès, tu sais.
Une grosse différence que je vois entre ton masque puis, mettons, ta vraie personne, c'est que ton masque, il veut vraiment, vraiment pas décevoir, puis il est prêt à piler sur toutes ses valeurs pour plaire.
Oui.
Puis là, quand tu reviens, que t'enlèves ton masque, là, t'es en colère.
Je suis en colère contre moi-même.
Ouais.
C'est pas juste pour plaire, mais c'est aussi pour que les gens autour de moi se sentent bien.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression que je créerais des malaises. Puis même déjà... Je fais des compromis parce que je mets mon masque, mais je vais dire des choses peut-être qui vont mettre mal à l'aise. Des fois, je vais aller, tu sais, je vais dire des choses très intimes, je vais dire des choses auxquelles les gens s'attendent pas. Donc, je me dis, je fais quand même un compromis. Je vais vous sourire, je vais être très, très, très facile à côtoyer, mais en même temps, je peux pas vous mentir à ce point-là. Ouais. J'ai besoin quand même de vous dire des choses vraies, puis j'ai besoin d'apparaître à quelque part, tu sais.
De l'extérieur, ben ça va. La personne s'en sort. Mais en dedans, bon, on ne sait pas ce que la personne traverse ou vit ou l'effort que ça demande pour se camoufler, entre guillemets, pour faire pareil, pour, OK, je vais arriver, je vais dire allô à tout le monde, je vais m'asseoir, je vais commander une bière. Tout le monde a pris une bière blonde, je vais prendre une bière blonde, moi aussi. Bon, quand est-ce que je pars? Là, je suis vraiment tannée. Je pars tout de suite.
Je me reconnais tellement dans ce que vous dites. Ah! C'est fou parce que moi, j'ai passé ma vie à me sentir comme ça socialement, ouais. Mais je pensais que tout le monde se sentait comme ça, que tout le monde avait cette espèce de voix dans la tête qui roule tout le temps, qui analyse tout.
On lit pas dans la tête des autres, mm-hmm. Alors on se rend pas toujours compte non plus de ce que les autres ne font pas ou font naturellement, alors que nous, c'est appris, c'est travaillé. Puis on peut penser que tout le monde travaille aussi fort, tout le monde réfléchit aussi fort, tout le monde, ça tourne, puis c'est 8 hamsters. Ça n'est pas juste un en même temps qui tourne. Donc, des fois, on n'évalue pas toujours bien et on veut encore plus se normaliser. Mais là, tout le monde fait ça, tu sais. Alors, ouais, mais non, là, tu rushes quand même plus, là. Tu travailles pas mal plus fort pour quelque chose de pas si pire ou de banal pour une autre personne. Alors, ça peut amener un épuisement aussi, un épuisement cognitif.
Parce que ça résulte quand même en un effondrement. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu, là, je pense, j'en suis à mon 3e, 4e burn-out, là, vraiment diagnostiqué, tu sais. Puis, à un moment donné, je me disais, ben, je pense pas que c'est tout le monde qui a autant d'effondrement. Pourquoi ça vient d'où? Puis là, on peut comme commencer à faire des liens.
Après avoir évalué le camouflage, on voit le coût énergétique. Donc, parce qu'il y a ce qu'on appelle une hypervigilance, c'est-à-dire suivre la conversation, maintenir le contact visuel, s'adapter. Donc, il y a des femmes qui vont, par exemple, prévoir dans leur tête des scripts, des sujets de conversation, des façons de se comporter. On parle même, il y a une forme d'assimilation qui est la posture. Comment je me tiens? Juste ça, dans mon non-verbal, pour ne pas avoir l'air toute
rigide. Où est-ce que je mets mes mains?
C'est ça. Comment je regarde les autres? Je balaie du regard. Donc, tout ça, c'est de l'hypervigilance. Donc, quand on est en hypervigilance, puis c'est moins spontané, ça gruge beaucoup d'énergie. Et donc, qui fait qu'il y a des surcharges sociales, de camouflage, sensorielles, parce qu'il n'y a pas de filtre. Donc, tous les stimuli sont perçus souvent de façon très amplifiée et la fatigue cognitive, parce que vous réfléchissez constamment. Votre cerveau n'est jamais à off. Tout est perçu, tout est analysé, ça roule à 100 km/h dans votre tête. Et donc, ces trois éléments, si je suis claire, c'est social, hypervigilance, sensoriel et cognitif. Entraîne une grande fatigue, cette surcharge-là qui est trop grande. Et donc, il y a des épisodes de burn-out, mais en fait, probablement, la plupart des femmes ont été diagnostiquées avec une dépression ou bipolaire. Pourquoi ça va plus, tout d'un coup, c'est des surcharges, en fait. Donc, si moi, à l'époque, mettons, il y a 20 ans, je vous avais rencontré, j'aurais dit, ben, peut-être qu'elle est déprimée, peut-être qu'elle est plus anxieuse, peut-être que TPL... parce qu'on n'avait pas les grilles. Maintenant qu'on a les grilles du profil féminin, on est capable de repérer un profil. Et ces femmes avaient d'autres diagnostics. Donc, elles étaient là, mais avec soit aucun diagnostic ou un diagnostic erroné pour la plupart.
Donc, oui, camoufler, ça offre des avantages, comme une meilleure intégration sociale. Mais il y a aussi des inconvénients, dont le coût se paie parfois en problèmes de santé mentale. Aussi, plus le masque est performant, plus le diagnostic risque d'arriver tard dans la vie, ce qui peut mener à de l'errance diagnostique. Dans le prochain épisode, on va parler de cette errance-là. On va observer comment le fait de s'adapter quotidiennement au monde neurotypique, surtout quand on ignore qu'on est neuroatypique, ça peut générer de l'anxiété, de la fatigue, puis même une réelle détresse.
Dans la population normale, il y a plus de troubles de santé mentale chez la femme que chez l'homme. Alors, cette proportion-là est au moins la même quand on parle des personnes neurodivergentes qui ont un trouble neurodéveloppemental où les femmes ont plus de troubles donc de santé mentale associés.